Buenas tardes, señoras y señores. Con esta quinta conferencia que hoy va a pronunciar el señor Ortolí, ponemos punto final al ciclo de conferencias que sobre, con el rótulo general de Europa Hoy, se han venido desarrollando en esta fundación en lunes antecedentes. El propósito de la fundación al haber organizado este ciclo, digo hoy lo que dije cuando el primer día presenté globalmente el mismo, no es otro sino llamar la atención del gran público a través de los asistentes a estas conferencias y a través de los medios de comunicación acerca de determinados problemas sobre la situación comunitaria de estos mismos momentos, problemas que han sido expuestos a nuestro público por grandes personalidades que conocen muy bien, por oficio cotidiano, casi podría yo decir, el desarrollo de los mismos y sus posibles soluciones. Desde esta misma perspectiva, el señor Ortolí va a hablar hoy acerca de las posibles aportaciones de Europa para resolver la grave crisis económica que tiene atenazado a todo el continente. Presentará al profesor Ortolí, un distinguido economista español, uno de los más ilustres economistas españoles del momento, el profesor Rojo, que es catedrático de teoría económica en la Universidad de Madrid y director general del Servicio de Estudios del Banco de España. A él le hemos pedido que haga la presentación no solamente de la personalidad del señor Ortolí, sino también del tema que el señor Ortolí va a desarrollar. Bastan, pues, estas palabras mías de salutación a todos ustedes para ceder inmediatamente el uso de la palabra al profesor Rojo, tras de cuya presentación será el señor Ortolí quien ocupe esta tribuna. Muchas gracias a todos por su presencia.
Señoras y señores, al concluir la Segunda Guerra Mundial, las previsiones relativas a la evolución futura de las economías de los países industriales no se caracterizaban en general por el optimismo. Las graves perturbaciones del periodo comprendido entre las dos guerras mundiales y, sobre todo, la catástrofe de la Gran Depresión de los años 30 proyectaban sombras inevitables de inquietud sobre el horizonte de las economías industriales en la posguerra. Muchos temían que la profunda contracción económica que se había iniciado en 1929 no hubiera sido un fenómeno histórico singular que pudiera darse por superado, sino que era la expresión de un mal profundo y duradero inherente a la fase de madurez que habían alcanzado las economías industriales. Se pensaba que estas economías, con sus bajas tasas de crecimiento demográfico y con su importante volumen de capital productivo acumulado, no encontrarían fácilmente en la posguerra ocasiones de inversión rentable. Y se temía, por consiguiente, que estas economías industriales maduras arrastrasen en la posguerra un lento crecimiento económico, una tendencia al estancamiento con tasas elevadas de desempleo. Esto se aplicaba tanto a Estados Unidos como a Europa, la cual tenía, por otra parte, pendiente el problema de la reconstrucción posbélica. Los hechos se encargaron, sin embargo, de desmentir aquellos temores, y las economías industriales conocieron en la posguerra, como es bien sabido, un largo periodo de prosperidad sin precedentes. Europa, concretamente, no solo superó en un breve plazo el esfuerzo de la reconstrucción con la ayuda de Estados Unidos, sino que a lo largo de los años 50 y 60 registró tasas de expansión muy vivas y un dinamismo que pronto le permitió competir con ventaja en muchas líneas productivas con la economía americana. Los problemas de la escasez de dólares característicos de los años 50 quedaron pronto atrás y al iniciarse la década de los años 70, cuando la economía americana acusaba los resultados de la guerra de Vietnam y de su inadecuada financiación, no faltó quien pensara que el juego de las fuerzas económicas mundiales se había desplazado en favor de Europa y de Japón. Las sucesivas depreciaciones del dólar frente a las monedas europeas y el yen japonés, con el hundimiento del sistema monetario internacional instaurado al final de la Segunda Guerra, se señalaban como la expresión de cambios reales y profundos que mostraban una mejora neta y consolidada en la posición relativa de la economía europea. Pero aquel optimismo económico europeo había de durar, sin embargo, poco tiempo. ha desaparecido de hecho bajo el impacto de las dos elevaciones sucesivas del precio del petróleo, la primera en 1973-74 y la segunda en 1979-80, elevaciones del precio del petróleo que habían de afectar con especial dureza a un área como la europea, altamente dependiente de las importaciones de energía. Además, Europa ha registrado un proceso, iniciado en los últimos años 60, que ha tendido a convertirla en un área de elevados costes trabajo en detrimento de su capacidad de competencia. Y por otra parte, las economías europeas han mostrado en estos años una elevada rigidez que ha dificultado su ajuste a las nuevas circunstancias de la economía mundial. Han mostrado las economías europeas, ciertamente, una flexibilidad inferior a la de la economía americana, al tiempo que su estructura social hacía imposibles las peculiares adaptaciones abordadas por la economía japonesa. Si en algún momento del pasado las posiciones económicas relativas parecían desplazarse a favor de Europa, ese movimiento parece haberse invertido en los últimos años. Un artículo editorial del Financial Times de hace unos días señalaba que la política financiera europea se hace, en un grado cada vez mayor, al otro lado del Atlántico. Pero tal vez lo más adecuado sea, sin embargo, no generalizar, hablando de Europa, no hablar de rasgos y situaciones comunes aplicables a un área que continúa caracterizándose por la diversidad nacional, porque esta diversidad sigue siendo una de las fuentes básicas de las dificultades europeas, a pesar de los esfuerzos por lograr mayores grados de integración y armonización de sus economías y sus políticas económicas. Tenemos hoy la fortuna de tener con nosotros a una persona especialmente capacitada para hablar de estos problemas a partir de una experiencia profunda y desde una perspectiva global. Porque M. François-Xavier Octoly, vicepresidente de la Comisión de las Comunidades Europeas y encargado de los asuntos económicos y financieros, se ha prestado amablemente a cerrar este ciclo de conferencias sobre problemas europeos organizado por la Fundación Marc. El señor Ortolí es una persona demasiado conocida en el ámbito europeo para que yo pueda pretender presentársela a ustedes. Solo quiero subrayar la medida en que confluyen en él la doble vertiente de una amplia experiencia económica de ámbito nacional y una dilatada experiencia en el esfuerzo de integración europea. El señor Ortolí, que como tantas figuras destacadas de la política y la economía francesas, procede de la École Nationale d'Administration y del Cuerpo de Inspectores de Finanzas, desarrolló a partir de 1951 una brillante carrera en el ámbito económico de la administración pública francesa, que le condujo al puesto de comisario general del plan francés en 1966-1967. Entre 1967 y 1972, el señor Octoly fue sucesivamente ministro de Equipamiento y Vivienda, Educación Nacional, Economía y Finanzas y Desarrollo Industrial y Científico. Con tan amplia experiencia política y técnica, el señor Octoly pasó en 1973 a dedicar sus esfuerzos al proceso de integración europea, habiendo desempeñado el cargo de presidente de la Comisión de las Comunidades de 1973 a 1976, y ocupando desde 1977 a la actualidad el puesto de vicepresidente de la Comisión de las Comunidades. La importante tarea desarrollada por el señor Octoly en esos puestos es bien conocida, pero desearía subrayar dos puntos que me parecen hoy especialmente relevantes. Primero, su destacadísima participación en el esfuerzo encaminado a instaurar y consolidar un área de estabilidad cambiaria en el marco de la comunidad, cuya expresión es el Sistema Monetario Europeo. Y segundo, su participación igualmente destacada en el esfuerzo por lograr mayores grados de coordinación entre las políticas económicas nacionales de los países comunitarios, tanto en la vertiente monetaria y financiera, ligada naturalmente al Sistema Monetario Europeo, como en su vertiente real, relativa a la adaptación de las estructuras productivas de la comunidad a las nuevas condiciones de la economía mundial. Desde esa perspectiva privilegiada, el señor Octoly se propone hoy hablarnos de los problemas actuales de Europa, de su posición y actitudes respecto de la crisis económica. Numerosos síntomas parecen apuntar una posible mejora de la actividad en los países industriales, especialmente en la segunda mitad de este año. ¿Está Europa a punto, efectivamente, de superar la parte más difícil de la crisis generada por los impactos sucesivos del encarecimiento de la energía, dada la notoria sincronía entre los ritmos de actividad de las economías de España y de Europa, estos son temas de un interés acuciante para nosotros. Con un horizonte más amplio, ¿cuál puede ser la aportación europea al conjunto de problemas de las economías mundiales que han venido agravando la crisis y haciendo más difícil su manejo? ¿Existe dentro de Europa una voluntad de concertación y de armonización de las políticas económicas o de las políticas a secas que pueda otorgar un fundamento sólido a esa aportación? Nuestra próxima incorporación a la comunidad otorga un especial interés a la visión que de estos problemas puede ofrecernos una persona con la privilegiada perspectiva y experiencia del señor Ortuori. Muchas gracias.
Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, la conférence que je vais prononcer n'a pas pour thème les relations de l'Espagne et de la communauté. Mais bien évidemment, d'une certaine façon, votre pays ne sera pas absent de mon propos. Le lien intime de l'Europe des 10, à travers la constellation des gouvernements, des partis, des opinions publiques, est d'être sur le plan politique une union de démocratie. Au-delà des différences de situation et des disparités de revenus, de structures et de résultats, il est, sur le plan économique, de vouloir se donner la force qu'apporte la dimension continentale. Dans les raisonnements qui vont suivre, l'Espagne, qui partage l'idéal politique et l'objectif économique que je viens de rappeler, l'Espagne, engagée avec la Communauté économique européenne dans des négociations d'adhésion et futurs membres de notre groupe, trouve naturellement sa place. Lorsque la Fondation Juan March m'a fait l'honneur de me demander cette conférence, j'ai hésité sur le titre. J'ai pensé un moment retenir celui-ci, le secret perdu. L'Europe, en 1973, et pas seulement l'Europe communautaire, paraissait installée dans un processus de croissance élevé et continu, presque 5% annuellement pour l'Europe des 6, de 1960 à 1973, dans un quasi plein emploi. 2% de la population active était au chômage, dans une participation toujours plus active au commerce international. Elle donnait à l'extérieur le sentiment d'une entité économique en plein développement, j'allais presque dire agressive, qui rattrapait à pas de géant le champion américain. Et puis, tout se passe comme si le temps d'un embargo et d'une hausse des prix du pétrole se produisait une rupture comparable à celle sur lesquelles s'interrogent encore les archéologues en Crète ou à Mycène. D'un seul coup, tous les indices changent de signe. Le chômage croît continuellement, année après année, sans un seul recul de 1973 à 1981, pour atteindre dans la communauté 9% de la population active. La croissance tombe à un peu plus de 2% en moyenne annuelle entre 1974 et 1980, c'est-à-dire la moitié du rythme précédent. Même recul pour la productivité, et l'inflation fait un bond, se maintenant dans l'Europe des 10, prise comme un ensemble, aux alentours de 11,5%. C'est l'opposition entre ces deux types d'évolution. C'est le changement de langage et la fuite en avant par l'expérimentation de politiques économiques fondées sur des bases conceptuelles qui se veulent nouvelles, mais sont bien souvent mal maîtrisées. Ce sont les déceptions qui ont suivi la mise en place de ces politiques. Ce sont le désenchantement, l'angoisse parfois, sûrement le sentiment de fatalité, opposé à la confiance presque aveugle des années 60, qui m'ont fait penser au secret perdu. J'ai pourtant renoncé à ce titre. Il donnait, me semblait-il, un sentiment d'acceptation, presque de complicité, contraire à ce qui est chez moi le sentiment dominant. Appartenant à une génération qui a bâti sur des ruines et dont l'esprit était celui du chantier, je crois que nous devons regarder sans complaisance le monde tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il change, voir ce qu'il exige de nous, nous organiser pour faire face quoi qu'il en coûte, retrouver en commun un esprit de réussite, de conquête, celui dont d'autres, pas mieux placés et confrontés aux mêmes difficultés, je pense au Japon ou à d'autres pays du sud-est asiatique, ont su faire preuve au moment où nous reculions. Or, les responsabilités que j'exerce me convainquent que l'Europe, qui n'a perdu ni ses travailleurs hautement qualifiés, ni ses chefs d'entreprise, ni ses savants, a les atouts nécessaires pour redresser à terme la barre, et que le processus d'unification dans lequel elle est engagée peut y aider puissamment. Je ne partirai donc pas dans cette conférence à la recherche du secret perdu. J'essaierai au contraire de vous présenter ce que nous pouvons et devons faire ensemble en suivant une route difficile et longue. Mais avec la ténacité qu'implique le profond changement d'une économie sur elle-même. Il faut être l'enfant du soleil et l'homme de la pluie, écrivait René Char. Après tout, peut-être le secret perdu est-il seulement celui de la lucidité et de l'obstination. Je grouperai mes réflexions autour de trois thèmes principaux. Une brève analyse de la crise, préalable évident à toute réflexion sur les politiques à mettre en œuvre pour faire face à cette dernière. Le caractère nécessairement convergent des politiques nationales de sortie de crise et l'indispensable apport de l'Europe. Comprendre la crise. L'obligation en est d'autant plus forte que le relatif insuccès des politiques suivies pour surmonter nos difficultés, lequel entraîne à son tour un sentiment de fatalité, voire d'impuissance, s'explique en partie par les insuffisances de l'analyse. Mal à l'aise dans le diagnostic, incertains sur les moyens, nous sommes privés du ressort, de la rageuse volonté collective, sans lesquels nous ne déferons pas, fil par fil, point par point, le corset dans lequel nous semblons être pris. La première cause du changement radical de situation que l'Europe a connue, presque d'un jour à l'autre, se trouve à l'évidence dans ce facteur commun que constitue le choc pétrolier. Ce dernier a été d'abord et avant tout un choc dépressif, un coup porté à la croissance au travers de mécanismes faciles à analyser. Disant ceci, je ne porte pas de jugement de valeur, je n'attribue pas aux événements de 1973 une responsabilité exclusive, je n'oublie pas les désordres monétaires, prélude au désordre économique, je me refuse à entrer dans le débat sur le juste prix du pétrole. Il faut seulement retenir, quelles que soient les explications, les deux caractéristiques du choc, son ampleur et sa soudaineté, c'est-à-dire son effet de rupture. Un extraordinaire et brutal transfert de ressources s'est produit 3 fois en 8 ans, 2 fois directement par le prix du pétrole, 1 fois par la hausse du dollar, monnaie dans laquelle s'exprime le prix de l'énergie. Ce choc est facile à mesurer. En valeur, les importations d'énergie de la communauté sont passées de 16 milliards d'écus en 1973 à environ 100 milliards d'écus en 1981. L'écu fait un peu plus que le dollar. En pourcentage du produit intérieur brut, de 1,8 à plus de 4% en 1980. Outre leurs conséquences en matière de prix, ces 3 chocs cumulés ont changé les conditions du commerce international et introduit dans l'économie mondiale 2 éléments, un facteur déflationniste d'une part, une modification de la structure de la demande, donc des marchés d'autre part, dont nous n'avons pas fini de payer le prix. Les déficits de balance des paiements se sont généralisés, parce que l'augmentation de la facture pétrolière n'a pas eu pour contrepartie, ou pas suffisamment, ou pas assez rapidement, une demande de biens et de services. La première phase du processus de rétablissement de l'équilibre a donc été la mise en œuvre de politiques de restriction, qui ont dans une certaine mesure amplifié l'effet de contraction initiale. Encore, le système bancaire international a-t-il fait preuve d'une souplesse remarquable et procéder avec une grande efficacité au recyclage des capitaux disponibles. Malgré cela, le taux de croissance annuel moyen des exportations mondiales, qui avait été de 8,5% entre 1963 et 1973 est tombé à 4% entre 1973 et 1980. L'impact a été particulièrement fort sur les pays en voie de développement non pétrolier, dont la moitié en 1981 avait un déficit de la balance des paiements courants d'au moins 13% de leur produit intérieur brut, trois fois plus qu'il y a 10 ans. Pour ne prendre qu'un exemple, le Brésil payait en 1973 son énergie avec 8% de ses exportations. Ce chiffre est passé à 45% en 1981. Non seulement le monde en développement a dû chercher à réduire les importations globalement, mais encore énergie et vivres ayant la priorité, il lui a fallu diminuer plus fortement certains achats de produits industriels. La demande internationale de biens et de services non pétroliers et non agricoles ne s'est pas seulement contractée. Elle a en outre, élément supplémentaire de redistribution des cartes, au moins partiellement changé de forme. Les besoins des États pétroliers n'ayant pas forcément la même structure que celle des pays industriels ou en voie de développement qu'ils remplacent en partie sur le marché. Effet déflationniste dû aux difficultés de balance des paiements, mutation dans la demande internationale, la stagnation du commerce mondial et derrière elle la récession s'alimentent à cette double source. La stabilité monétaire a amplifié les effets, les conséquences du choc pétrolier. J'ai déjà évoqué l'effet direct de la hausse du dollar sur les factures d'énergie. Il est tout aussi important de constater combien l'instabilité monétaire accentue factuellement et psychologiquement le trouble des économies. Des taux d'intérêt trop élevés et volatiles découragent l'investissement. Ils amplifient les déficits budgétaires, ils orientent les capitaux disponibles vers les placements à court terme. Des variations de taux de change fortes et sans lien avec les fameux fundamentals modifient sur des périodes très brèves les conditions de la concurrence, alors que le développement des activités commerciales, lesquelles se fondent sur la ténacité et la continuité, exige un cadre suffisamment stable. Elles peuvent compromettre en quelques mois, sans raison économique sérieuse, des courants d'exportation bien établis. Elles changent aussi les conditions d'appréciation de l'investissement. Dans telle perspective de marché pour un produit, apprécié à partir de telle perspective de taux de change, il est justifié de construire une usine. Tel n'est pas le cas si l'évolution des taux, niveau ou degré de stabilité, rend la compétitivité du nouvel instrument de production incertain. De même, si les relations, disons, dollar-marque, se situent autour d'un certain niveau, je dis autour car nous n'en sommes plus à nous inquiéter de fluctuations modestes si elles ne sont pas quotidiennes, l'industriel allemand aura intérêt à investir chez lui. Alors que dans d'autres cas, il lui faudra investir aux États-Unis ou à Taïwan ou pas du tout. La hausse des prix de l'énergie, l'instabilité monétaire ont affecté peu à peu tous les pays. À l'intérieur de ce cadre commun, l'Europe a des caractéristiques propres qui contribuent à rendre sa position plus difficile. Elles expliquent que sur la période, ces deux grands concurrents, l'économie la plus puissante, la plus diversifiée et d'une certaine manière la moins dépendante du monde, forte par surcroît de son impérium monétaire, l'économie américaine, et d'autre part l'économie sûrement la plus entreprenante et peut-être malgré les apparences la plus mobile, je pense au Japon, et mieux qu'elle tirer leur épingle du jeu. Plusieurs éléments cumulés expliquent pour l'essentiel cette situation. Tout d'abord, deux données économiques permanentes qui se conjuguent. D'une part, les handicaps naturels que connaît l'Europe, laquelle n'ayant pas la réalité physique d'un continent, espace et sous-sol, est pauvre en matières premières, pauvre en énergie et même déficitaire dans ses échanges agricoles. D'autre part, son extrême dépendance vis-à-vis de l'exportation, 24% du produit intérieur brut environ, un quart, contre moins de 8% pour les États-Unis, à peine plus de 10% pour le Japon, et donc son extrême dépendance vis-à-vis de l'évolution du commerce international au moment même où la compétition s'exacerbe et où de nouveaux grands exportateurs apparaissent. Ensuite, une donnée nouvelle. L'accroissement continu de la population active en raison de l'évolution démographique et du pourcentage plus grand de femmes se présentant sur le marché du travail, lequel accroissement intervient au moment même où le choc pétrolier et le choc monétaire réduisent les possibilités de croissance. 4 700 000 personnes ont rejoint la population active entre 1973 et 1980, et dans la même période, le nombre de chômeurs s'est accru de 4 200 000. Le point important n'est pas dans l'évolution de la demande d'emploi prise isolément. Il est dans le rapprochement de ces deux chiffres. Les États-Unis et le Japon ont en même temps que nous connu une augmentation substantielle de leur force de travail. C'est l'incapacité à créer des emplois pour faire face à la progression de la population active qui caractérise malheureusement notre continent. Alors qu'aux États-Unis, l'emploi total augmentait d'environ 12 millions de personnes entre 1974 et 1980, dans la communauté, il augmentait seulement de 118 000. Je veux bien que ces chiffres soient probablement inexacts des deux côtés, mais la tendance est formidable, 12 millions d'un côté, 118 000 de l'autre. Enfin, il faut le reconnaître, en un temps où la promptitude du réflexe et l'aptitude au changement, y compris celle d'assumer sans trop attendre les charges que ce dernier impose, sont les clés du succès, nous observons une diminution de notre capacité de réaction, de notre faculté d'adaptation, de notre pugnacité. Cette diminution tient aussi bien à la progressive mise en place dans l'économie, à l'époque de la croissance forte, de mécanismes et de structures rigides, qu'à la psychologie collective, au développement de ces attitudes conservatrices et de cette résistance à l'évolution qui vont avec la réussite et le mieux-être. L'analyse, inévitablement sommaire, qui vient d'être faite, appelle quelques réflexions, non pas moroses ou amères, mais destinées à éclairer l'action. La crise sera longue. L'économie mondiale est entrée dans une période de changement substantiel, dont le moindre n'est pas la nouvelle révolution technologique. Aucun de ces changements n'épuisera ses effets rapidement. Leur combinaison rend moins évidente la définition des politiques et plus difficile la mise en œuvre de ces dernières. La rupture n'est pas conjoncturelle. Nous avons à faire face à une véritable mutation et nous devons adapter en conséquence nos politiques et nos sociétés. La crise sera coûteuse. Rien ne permettra de compenser rapidement l'effet sur le revenu collectif de l'Europe des transferts de ressources que cette dernière doit consentir. Nul État ne pourra échapper à la nouvelle répartition entre consommation et investissement que requièrent les modifications de structure. Personne ne doit ignorer que les exigences de la compétitivité, de la créativité, de la mobilité peuvent, dans certains cas, conduire à la remise en cause d'avantages acquis. La situation n'autorise donc ni la facilité, car les contraintes de balance des paiements obligeraient vite à y mettre un terme, ni le conservatisme, dont la tentation repose sur un contresens quant à la nature et donc quant aux solutions de la crise, lesquelles passent par l'acceptation et l'organisation du changement. Le tableau qui vient d'être tracé est sans phare, mais encore une fois, la profondeur des mutations en cours nous interdit de vivre dans un monde d'illusions. D'un diagnostic correct doit, au niveau des nations, de l'Europe, des relations économiques internationales, se dégager une appréciation commune sur les moyens de rejoindre, au terme d'un long cheminement, une nouvelle croissance et un meilleur emploi. Dans la communauté, les États membres conservent la responsabilité principale du redressement. La définition de la politique économique, les instruments principaux de gestion, restent pour l'essentiel dans leurs mains, de même qu'ils gardent la responsabilité politique de la réussite ou de l'échec. D'autre part, la communauté, bien qu'elle forme un marché unique, ne représente pas un ensemble homogène. Ces États membres ont des différences de revenus, de structures, de développement, d'emploi, de comportement qui les mettent le mieux à même de définir les actions diversifiées qu'une telle situation appelle. Enfin, les changements d'envergure que requiert la mutation structurelle sont impossibles sans un consensus actif. une puissante volonté collective dont la meilleure expression est au niveau, je ne dis plus de l'État, mais de la nation. Ceci n'empêche pas la communauté d'avoir un rôle à jouer par une coordination des politiques économiques que rend nécessaire l'unicité du marché, l'existence d'un noyau monétaire commun, le fait que la politique commerciale extérieure soit de compétence communautaire. Ceci ne lui interdit pas de mettre en œuvre, en vue du redressement, des moyens complémentaires à ceux des États. C'est au contraire indispensable. Plus encore, même dans la définition des orientations nationales, la recherche d'une même ligne générale d'action s'impose. En effet, mutatis mutandis, et malgré les différences de situation, les politiques des États membres doivent avoir la même trame, respecter les mêmes objectifs, tenir compte des mêmes contraintes, user de moyens de même nature, parce qu'ils ont à faire face aux mêmes problèmes. Ces politiques doivent poursuivre au même moment des objectifs conjoncturels, lutte contre l'inflation, lutte contre le chômage, meilleur équilibre des balances des paiements, et structurels, conditions durables de compétitivité, meilleure mobilité des structures et des facteurs de production, moindre dépendance énergétique, adaptation aux techniques nouvelles, le tout aboutissant à la création d'emplois durables. De ce fait, les États doivent mettre en œuvre dans les deux domaines, du court terme et du moyen terme, des méthodes d'action qui soient compatibles entre elles. En d'autres termes, on ne sépare plus aujourd'hui ce que l'on fait sur le plan de la conjoncture et ce qui doit agir sur le plan de la structure. Et le tableau de conduite de l'économie a cessé d'être simple. Cette considération générale oblige à demander à chacun des grands instruments de gestion de la politique économique une contribution à la fois à la lutte contre l'inflation, à la maîtrise des coûts de production et au développement de l'économie en vue de la résorption du chômage. La politique monétaire ne peut, selon moi, se ramener au seul contrôle, j'allais dire éperdu, du volume de la masse monétaire. Même si l'on a en vue la lutte contre l'inflation, d'autres variables demandent à être considérées. Une politique monétaire réaliste doit associer avec souplesse trois types de ce qu'on appelle en jargon de monétaire d'objectifs intermédiaires. La masse monétaire, le volume de monnaie, la quantité, dont la gestion doit être intelligemment rigoureuse, parce que tout en sevrant progressivement l'inflation, elle doit, dans ses modalités, préserver les chances de la croissance et éviter l'apparition d'un cercle vicieux dépressif. Le taux de change, parce que sa suffisante stabilité est une condition de la confiance et un moyen de s'obliger aux disciplines utiles à la compétitivité. Les taux d'intérêt, dont le niveau réel doit être de nature à stimuler l'épargne longue sans décourager l'investissement. Tous ces points sont liés. Ainsi, une indifférence excessive en matière de taux d'intérêt ne sert pas à la lutte contre l'inflation. Car pour réussir dans cette dernière, non seulement il faut éviter les dépressions trop fortes et trop longues, fâcheuses pour la productivité et qui accentuent la crainte d'investir, mais encore, il faut s'appuyer sur l'investissement, qu'il concerne les coûts, la capacité de production ou le développement de nouveaux produits et services, pour s'assurer une nature de l'offre et une structure des prix conforme à l'objectif de maîtrise de l'évolution des prix. La politique budgétaire doit désormais, dans tous les États membres, être insérée dans un processus à moyen terme définissant des objectifs et les moyens d'action pour atteindre ces derniers. Au moment même, en effet, où l'analyse classique requierrait le recours au budget pour activer la croissance, on constate, en dehors de toute querelle théologique, que dans plusieurs États membres, le volume des prélèvements publics a atteint ses limites par rapport à ce qui doit être laissé au développement de l'activité productive et que les déficits, ou bien pèsent abusivement sur l'épargne, tirant vers le haut les taux d'intérêt et freinant la croissance liée à l'investissement, ou bien conduisent au laxisme monétaire et nourrissent l'inflation. Nous retrouvons là la double exigence apparemment contradictoire que nous avons rencontrée plus haut, comment concilier croissance et lutte contre l'inflation. Si, là où la situation est saine, les marges de manœuvre disponibles pour soutenir l'économie doivent être utilisées. À l'inverse, plusieurs États membres de la communauté n'échapperont pas à l'obligation de réaliser méthodiquement la réduction des déficits. Certains d'entre eux devront poursuivre sur plusieurs années la reconquête de l'arme budgétaire. Que faire d'autre lorsque le déficit public atteint 12 ou 13% du produit intérieur brut? Je vous rappelle que dans la communauté, la moyenne est 4%. Tous doivent veiller à prévenir l'apparition, même lente, de nouvelles situations incontrôlables. Le processus est insidieux, il est cumulatif, quoiqu'à terme, les risques qu'il crée sont considérables et doivent être évités à tout prix. Le volume du prélèvement public global est à sa manière aussi important que le niveau du déficit. La limitation de ce que j'appellerais la disponibilité créative de l'économie est dangereuse en tout temps. Elle l'est plus encore dans des économies en mutation qui doivent prioritairement dégager les moyens de l'investissement. Presque partout, la réflexion économique d'ensemble doit tenir compte de cette donnée et conduire à élaborer les décisions complexes qui permettront de plafonner puis de réduire le poids de la charge globale non productive. Enfin, ce dernier point est lié au second, le contenu des budgets doit être revu. La part faite au développement de l'offre, par exemple par une fiscalité encourageant l'investissement, par l'augmentation des moyens consacrés à la recherche, par la mise en place de structures de formation associant l'entreprise, c'est-à-dire mieux adaptées aux problèmes de l'emploi. Celle des investissements publics de développement, ceux qui offrent à l'initiative créatrice les commodités de transport, de communication, de cadre qui lui sont nécessaires, cette part doit être systématiquement accrue, inévitablement au détriment d'autres dépenses. Comme vous le voyez, je me refuse à m'arrêter au seul aspect de régulation conjoncturelle du budget, son rôle actif, sa participation à un développement sain de l'économie est à mes yeux tout aussi essentiel. Mais lui restituer ce rôle est une tâche exigeante et longue. Enfin, tous les États membres de la communauté doivent rechercher le consensus des différents acteurs de la vie économique pour considérer le retour à la compétitivité et l'aptitude au changement comme la clé des problèmes de l'emploi. Je déplore d'utiliser ce jargon pour présenter l'ardente obligation collective sur laquelle l'accord doit se faire. Mais c'est une manière de dire qu'acceptant un diagnostic, chacun doit en tirer les conséquences de comportement. C'est ainsi que, explicitement ou non, une politique des revenus doit se mettre en place, qu'au travers de conventions ou comme résultat d'un dialogue continu, la modération des coûts doit s'opérer, allant parfois jusqu'à une diminution des revenus réels. C'est ainsi qu'il convient de rechercher en commun la conciliation entre protection sociale et compétitivité, justice sociale et mobilité. C'est ainsi qu'à côté de la rigueur des décisions, la partie dynamique, la partie créative de l'action doit toujours être rappelée et mise en valeur. C'est pourquoi le grand objectif de retour à la croissance et d'amélioration de l'emploi doit constamment apparaître parce que lui seul peut donner au sacrifice inévitable leur véritable caractère, celui d'une contribution nécessaire à la lente solution des problèmes de nos citoyens. J'ai parlé dans cette seconde partie trop brève, presque caricaturale, des responsabilités des États membres de la communauté. Je ne pense pas cependant être sorti de mon sujet. D'abord parce que nos procédures de coordination des politiques nous engagent dans un effort de cohérence réciproque qui a son importance dans la formulation des actions nationales. Ensuite, parce que la reconnaissance de l'identité des difficultés et de l'analogie des solutions, et donc le choix d'une ligne commune, a sa valeur politique et peut contribuer au succès. Enfin, parce que tel est le cadre dans lequel s'inscrit l'apport spécifique de la communauté. Dieu merci, la communauté économique européenne n'est pas seulement une communauté de problèmes. Bien au contraire, son existence offre à ses États membres des moyens supplémentaires, à mon sens considérables, de faire face aux défis qu'ils affrontent. Qu'apporte-t-elle? La dimension continentale. Pas celle qui résulte de l'étendue du territoire ou de richesses naturelles. Celle au moins potentielle que donne à l'extérieur le poids dont pèse la seconde entité économique et la première puissance commerciale du monde et à l'intérieur, un marché de 270 millions de consommateurs dont le revenu moyen est supérieur à 7 000 $ par an. Ce potentiel doit être exploité avec détermination partout où il existe, c'est-à-dire partout où la communauté peut contribuer à éliminer certaines causes de crise ou à valoriser au maximum nos atouts. Sans prétendre couvrir tout le champ de l'action communautaire, ainsi je ne parlerai pas du dialogue Nord-Sud dans lequel notre rôle peut être important, je choisirai deux domaines dans lesquels l'apport de l'Europe des 10 est indispensable, indiscutable et de nature à avoir un effet positif sur la solution de nos problèmes. Le premier domaine est le domaine monétaire, intérieur et international, où l'objectif est clair. Usant un mot de Jacques Rueff, je dirais qu'il s'agit de retrouver le silence de la monnaie, d'échapper à l'obsession quotidienne des cours de change et des taux d'intérêt, de disposer à nouveau d'un cadre monétaire établi, certes pas exclusif, d'incidents, mais moins précaire, moins hasardeux. Je ne pousserai pas la naïveté jusqu'à croire qu'un tel objectif, c'est-à-dire pour exprimer les choses simplement, le rétablissement d'un système monétaire international ayant ses règles du jeu, ses moyens et ses garde-fous, puisse être rapidement atteint. Il y a quelque 30 ans, la stabilité monétaire s'appuyait, si vous me permettez un raccourci, sur l'association d'un système monétaire et d'un non-marché. Bretton Woods avait établi des règles rigides et respectées, le dollar régnait incontesté, peut-être parce que d'une certaine façon il était incontestable, le cloisonnement des échanges commerciaux et financiers évitait la contagion des appétits spéculatifs ou des erreurs économiques. Aujourd'hui, nous avons un marché et plus de système. La monnaie internationale est le domaine de l'imprévisible, du non réglementé et curieusement, d'une certaine façon, ceux-là même qui croient le plus aux vertus du monétarisme, lequel est fait de discipline, acceptent le mieux cet état de fait. Les conditions d'établissement d'un nouveau système monétaire ne sont pas réunies, ni les conditions d'ordre conceptuel, parce que les théories s'affrontent avec une vigueur égale à leur indémontrabilité, ni les conditions d'ordre technique, parce que le substitut du dollar en tant que monnaie dominante, s'il existe, est dans les limbes, parce que l'autorité monétaire internationale qui réglerait les liquidités et organiserait les disciplines du marché n'est pas prêt d'apparaître, parce que le dollar lui-même n'a pas retrouvé les caractéristiques de constante solidité et prévisibilité qu'on attend de la principale monnaie de réserve, ni les conditions politiques. Je veux dire le consensus quant à la nécessité, justifiée par la complémentarité des intérêts, d'un ordre concerté, même établi sur des bases pragmatiques. Ce dernier domaine, cependant, la réalisation entre les grandes entités monétaires d'un accord de travail n'appelant ni construction intellectuelle ambitieuse, ni mécanisme absolument contraignant, ni institution nouvelle, mais établie sur des fondations sérieuses et solides, me paraît celui sur lequel doit porter l'effort, parce qu'il est le plus accessible et que les possibilités d'agir ne peuvent manquer de s'ouvrir dès lors que les doctrines monétaires les plus radicales auront révélé leurs limites et l'interdépendance des économies rappelé ses exigences. La communauté européenne, par son action interne et par sa capacité d'expression extérieure, peut rapprocher ce moment. La création du système monétaire européen a été un acte politique, une façon de réagir contre l'atonie de la construction européenne. Il a été aussi un double acte de raison. D'une part, sur le plan monétaire, on a voulu remédier dans une zone limitée, mais importante et influente, à une instabilité qui ajoutait aux troubles de l'économie. D'autre part, en termes de marché unique, il fallait éviter que des évolutions monétaires divergentes ne remettent en cause l'acquis communautaire. Nous devons poursuivre ces différents objectifs, mais aussi utiliser la crédibilité monétaire européenne pour proposer à nos grands partenaires une coopération organisée. La première direction d'action est le renforcement du système monétaire européen. Ce dernier a manifesté dans ses premières années d'existence une vitalité qui a pu surprendre. Il a atteint ses objectifs d'atténuation des fluctuations monétaires. Il convient maintenant de consolider ses résultats et de préparer la prochaine étape, c'est-à-dire ce que nous appelons dans notre jargon la phase institutionnelle, celle où la communauté en tant que telle, et non plus seulement par des accords toujours révocables entre banques centrales, aura une véritable existence monétaire. Il faut également espérer que la Grande-Bretagne, qui participe seulement partiellement au système monétaire européen, mais qui joue son rôle dans tous nos mécanismes de coordination des politiques économiques, deviendra rapidement un partenaire à part entière du SME. La volonté clairement exprimée dimanche dernier encore, lors du réalignement du franc belge et de la couronne danoise, d'améliorer les mécanismes du système et d'en accroître la portée, et donc la détermination politique affichée de développer l'entreprise commune, devrait permettre, à l'issue des travaux que nous avons engagés et dont il sera rendu compte au prochain Conseil européen, d'accentuer le caractère de zone de sécurité des échanges et de l'investissement que nous voulons donner à l'ensemble européen, d'amplifier l'effort de convergence des politiques et des résultats, l'effet de discipline dynamique, créative, que le système contient en puissance, d'asseoir l'instrument de diversification financière et l'amort d'avoir de réserve que constitue l'écu. Le renforcement de la sécurité monétaire interne, la garantie d'une évolution suffisamment raisonnable et prévisible dans ce secteur si sensible, qui seront de plus en plus un facteur de croissance saine, constitue une contribution majeure de la communauté au rétablissement de la santé économique de l'Europe. On l'a bien vu lors de la récente dévaluation du franc belge. La longueur des débats entre ministres, plus que l'expression de tension ou d'antagonisme, exprime le sérieux avec lequel nous sommes capables de rechercher, dans les domaines d'intérêt commun, le meilleur point d'équilibre, la plus grande cohérence collective. En outre, dans notre monde de séisme, lorsqu'une vaste zone comme la nôtre est à ses volcans, elle consolide pour elle, comme pour les autres, les voies d'un développement mieux assuré. La deuxième direction d'action concerne nos relations avec les grandes monnaies tierces, et d'abord le dollar, qui est dans le domaine monétaire un fait impérial. Le thermostat des relations du dollar avec les autres devises est passé du frais, le benign neglect, au tiède, avec les accords américano-allemands de 1978 et au froid depuis un an, et dans ce dernier cas, pour des raisons moins d'indifférence que de doctrine. Pour apprécier le bien fondé de cette position, deux considérations méritent, me semble-t-il, une attention particulière. Tout d'abord, la doctrine du marché, appliquée aux relations monétaires internationales, c'est-à-dire la capacité du marché à intégrer toutes les données et à fournir automatiquement la bonne réponse, appelle un examen critique attentif. Je laisse de côté les inévitables éléments de variation tenant au pari politique que fait le marché sur l'évolution interne d'un pays ou sur les risques que comporte la situation internationale. Mon point principal porte sur le fait, fréquemment oublié mais capital, que le cours de change est un mécanisme unique pour assumer au même moment les multiples fonctions extérieures de la monnaie. Le marché doit ainsi exprimer, à un instant donné, et tel qu'il le juge, le degré de compétitivité commerciale d'une économie au point de vue des échanges de biens et de services ou de l'investissement. Mais il est aussi le support de l'arbitrage financier, lequel se nourrit moins d'une appréciation des données fondamentales que d'un jugement sur l'avenir des taux et sur les différentiels de taux d'intérêt et leur évolution. Ces deux fonctions sont distinctes. Elles contiennent des possibilités de contradiction, l'une étant plus économique et l'autre plus financière, l'une plus fondamentale et l'autre plus conjoncturelle. Il n'est donc pas illégitime de s'interroger sur la meilleure façon pour l'instrument unique qui les remplit, le marché, de les concilier. Or, la liberté laissée au marché tend de nos jours à privilégier la seconde fonction plutôt que la première, à faire passer le résultat proprement financier avant les considérations de production, d'investissement et d'échange. Elle conduit au fait que les taux d'intérêt en Europe sont exagérément déterminés de l'extérieur et ne font pas la place qui convient aux données propres à l'économie concernée. Si le marché fait varier, c'est évidemment une pointe, le dollar de 45% en un an, entre juillet 1980 et août 1981, alors ou bien le marché se trompait hier, ou bien il se trompe aujourd'hui. Et s'il a raison, c'est sur un plan partiel qui laisse de côté des aspects économiques essentiels. Cette première considération ne me conduira à l'évidence ni à nier le rôle du marché, ni à souhaiter que ce rôle soit en quoi que ce soit affaibli ou amoindri. Non, mais je voudrais voir le marché mis à même de remplir sans contradiction abusive l'ensemble de ses responsabilités. Il convient donc d'encadrer son fonctionnement. Après tout, pourquoi le marché international de la monnaie échapperait-il aux disciplines que les banques centrales veillent à établir sur les marchés nationaux? Deuxième considération, le fonctionnement du marché monétaire et financier international est à l'évidence influencé par l'existence d'une position dominante qui est celle du dollar. Cette situation crée aux autorités monétaires américaines des devoirs particuliers. Tout d'abord, et elles en sont conscientes, et de notre côté, nous le souhaitons, et c'est au plus haut degré notre intérêt, celui de poursuivre une politique monétaire assurant le meilleur équilibre possible de leur économie. Mais les moyens utilisés pour atteindre cet objectif auquel nous souscrivons ne nous sont pas indifférents. Exerçant une responsabilité qui dépasse leur économie, les Américains doivent s'appliquer à choisir les techniques qui sont de nature à créer le moins de perturbations possible chez leurs partenaires, c'est-à-dire dans notre monde interdépendant, plus tôt ou plus tard chez eux-mêmes. Et ceci d'autant plus que pour les raisons que j'ai rappelées plus haut, et qui valent pour eux comme pour nous, ni les fluctuations excessives des taux de change, ni les mouvements erratiques ou trop élevés des taux d'intérêt réels ne sont à leur propre avantage. Il appartient à l'Europe unie d'intensifier son dialogue avec les États-Unis d'Amérique et avec d'autres comme le Japon, en vue de mettre nos grands partenaires en face des problèmes que nous pose l'instabilité monétaire, de faire reconnaître que la gestion de toute grande monnaie, et notamment de la plus forte, est faite aussi, qu'on le veuille ou non, pour compte d'autrui, de justifier nos doutes sur les imperfections du système, de mettre en lumière l'identité de nos intérêts. Je souhaite personnellement que ce dialogue permette d'aboutir à un double résultat. D'une part, il faudrait admettre le principe d'une coopération organisée, c'est-à-dire comportant des procédures régulières de consultation et l'activation, en cas de besoin, d'un commun accord, des mécanismes d'intervention sur le marché d'échange. Sans atteindre à l'automaticité des interventions dans le système monétaire européen, sans même entrer dans la procédure dont on a souvent parlé et qui est plus flexible de zones cibles, de zones à l'intérieur desquelles on s'efforce ensemble de contenir l'évolution monétaire, un système d'alerte devrait permettre de juger en commun si les variations de cours de change ne passent pas les bornes du plausible, ce que j'ai appelé ailleurs la zone de vraisemblance et n'appelle pas l'action conjointe. D'autre part, j'espère que les États-Unis pourront envisager de tenir compte, dans la gestion de leur politique monétaire, d'un objectif intermédiaire, même souple, de taux d'intérêt. Je sais bien que les théoriciens invoquent l'argument de l'impossibilité technique pour récuser une telle demande. Le profane se sentirait confus d'insister s'il n'avait des exemples, comme celui de l'Allemagne, de politiques qui arbitrent avec flexibilité et succès entre plusieurs objectifs intermédiaires. Et s'il ne pressentait que la vérité monétaire est à la fois absolue, il n'y a qu'une vérité, multiple, il n'y a qu'une vérité par banque centrale, et successive, il n'y a qu'une vérité à un moment donné. Quittant le sourire, j'ajouterai que, disant ceci, je ne pense pas parler des seuls intérêts de l'Europe. Je crois, je l'ai dit, qu'aucune politique monétaire ne peut être durablement indifférente à la quelconque des trois grands objectifs de quantité, de taux de change et de taux d'intérêt. Les considérations que je viens de faire n'enlèvent rien, je le dis avec force, à l'admiration que j'ai pour la compétence et le courage d'autorités monétaires qui, dans tous nos pays, portent parfois, au-delà de ce qui conviendrait, le poids du maintien des équilibres. Elles expriment seulement l'espoir d'une souplesse nécessaire dans l'expression technique de politiques par ailleurs excellentes. Ma conclusion sur ce premier point, long et aride, sera simple. Si l'Europe, forte de sa propre contribution à la stabilité monétaire et usant à bon escient de son pouvoir de négociation, pouvait, à défaut de poursuivre à long terme l'objectif aléatoire ou du moins lointain de la réforme du système monétaire international, aider à promouvoir un armistice monétaire, à convaincre ses partenaires de conclure un pacte intérimaire comportant consultation, concertation, coopération, les trois C dont parlait récemment un président de banque centrale, elle contribuerait puissamment à régler l'une des conditions de la sortie de crise. La deuxième grande question est comment tirer en termes de croissance et en termes d'emploi tout le bénéfice du grand marché communautaire. La coordination des politiques n'est pas qu'une procédure formelle. Bien conduite, elle est un moyen d'ajouter un peu de croissance à ce qui résulterait du jeu de politique nationale isolée. Le degré d'interdépendance que nous avons atteint, l'Allemagne par exemple, exporte 12% de son produit intérieur brut vers la communauté, rend impossible l'entière autonomie des politiques économiques. Au contraire, l'harmonisation de ces dernières, ce qu'on a appelé en 1978 l'action concertée, est un facteur important d'optimisation, excusez le mot. Nous devons donc rechercher systématiquement l'effet d'interdépendance en matière de croissance et d'emploi. Cette volonté peut conduire à des aménagements de politique intérieure, par exemple celle poursuivie en matière de balance des paiements pour éviter que certaines actions n'affectent défavorablement l'évolution chez les partenaires et en retour chez soi-même. Elle peut amener à des actions solidaires, par exemple en mettant au service d'un État le crédit de la communauté sur les marchés financiers afin d'aider cet État à franchir une mauvaise passe de balance des paiements. L'achèvement du marché intérieur est une seconde direction d'action. Le grand marché est de nature à conforter par des économies d'échelle, c'est-à-dire grâce à des ventes plus importantes et par une meilleure rentabilité du dispositif commercial, l'effort d'amélioration de la compétitivité. Et puis, il soumet les entreprises à une concurrence, puis-je dire naturelle, de la part d'autres entreprises, mais qui sont des voisines, connaissant en gros les mêmes contraintes, les mêmes règles du jeu, donc il oblige les entreprises de chacun des pays à mieux mesurer, mais sur un terrain familier, sans trop grande surprise, leurs chances et leurs handicaps. Après 24 ans, la tâche à accomplir pour perfectionner le marché intérieur reste immense. Obstacles techniques aux échanges, et notamment normes différentes, absence d'un marché européen des capitaux, insuffisante circulation des services. Les feux doivent être poussés et le grand marché sans entrave doit être établi très vite. L'accès à ce que vous me permettrez d'appeler la nouvelle demande peut être facilité par l'action commune. La nouvelle demande, c'est aussi bien la demande traditionnelle, lorsque face à cette dernière, notre offre a cessé d'être présente, je dirais presque que c'est la demande retrouvée, que l'apparition de nouveaux produits et services, donc de nouveaux marchés, sur lesquels il nous faut entrer en force. Et ici, deux voies s'ouvrent à nous. La communauté doit épauler l'effort d'investissement européen. Elle doit faciliter la mise en place d'un cadre qui soit favorable à ce dernier. Elle doit surtout mobiliser son crédit extérieur pour développer une politique d'emprunt et de prêt qui accroisse le niveau de l'investissement dans le pays. Elle doit, dans ce cadre, contribuer tout particulièrement au desserrement de la contrainte énergétique. L'investissement dans l'énergie a un grand mérite, son intérêt n'est pas discutable. Il est largement de la responsabilité des États, donc plus facile à décider. Il crée des emplois, y compris de services. Intervenant sur un marché porteur, il fait appel à des techniques nouvelles. L'industrie de l'énergie est en train de changer. Il atténue nos problèmes de balance des paiements et aide à restituer aux politiques nationales une marge de manœuvre. Or, nous ne faisons assez ni pour les économies d'énergie, ni pour les énergies de substitution du pétrole, ni pour les énergies de l'avenir. Pas plus aujourd'hui, en pourcentage du produit intérieur brut, environ 1,6%, qu'avant la crise de 1973. Moins que tout ce que nos calculs indiquent comme nécessaire, 2,5%. Beaucoup moins que ce que font les États-Unis et le Japon. Dans la stratégie commune de l'énergie que la Commission européenne, et cher Guido, tu en as quelques souvenirs, s'efforce de mettre en place, stratégie qui dépasse le cadre de ce discours, mais qui est elle aussi une contribution positive de l'Europe à nos problèmes, la participation à l'effort d'investissement grâce à une active politique de prêt est un élément central. C'est la politique, dépassant d'ailleurs l'énergie, que personnellement je poursuis tenacement, je crois, depuis 5 ans, en créant de nouveaux instruments financiers et en apportant tout l'appui de la Commission à la Banque européenne d'investissement. La seconde voie et celle du renforcement de notre capacité d'innovation, c'est-à-dire dans une participation réussie à la révolution technologique qui est en cours. L'Europe ne doit se laisser distancer par personne dans le lancement de nouveaux produits et l'élaboration de nouvelles techniques. Or, les premiers signes d'un décalage avec les États-Unis et le Japon sont perceptibles. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour redresser cette situation. La qualité des chercheurs et des ingénieurs, la hardiesse des entreprises, l'acceptation du changement par les travailleurs et les consommateurs, l'ambition de transformer l'inévitable en une chance de progrès économique sont ici la base même de la réussite. Mais la puissance publique, par son intervention financière, en contribuant à la préparation des hommes et par le bon usage des commandes publiques, peut contribuer, parfois d'une façon décisive, au succès de cette entreprise. À ce niveau, l'Europe a un rôle évident à jouer. Elle doit aider financièrement à lancer des actions de recherche qui dépassent les moyens de chaque État membre pris individuellement. Elle peut surtout, en harmonisant les normes et en concertant l'usage des commandes publiques, étendre la dimension du marché en partie captif sur lequel se fonde le développement de techniques nouvelles. La révolution technologique appelle la mise en place d'une ébauche de puissance publique européenne capable de remplir, au bénéfice du développement moderne, une partie des fonctions qui sont aux États-Unis celles de l'État fédéral et au Japon celles du MITI. L'analyse qui précède a mis en relief le rôle dans la politique de croissance du grand marché d'une part, d'une action européenne en matière d'investissement d'autre part. Ce rôle ne doit pas être sous-estimé. Le marché, c'est le véritable caractère continental de l'Europe, l'apport décisif qui peut être le sien. L'investissement, c'est une exigence commune parce qu'il commande le changement. À cet égard, il faut bien voir combien l'investissement joue un rôle, peut-être pas unique, mais sûrement décisif, dans la solution de la crise. À terme, il commande la compétitivité, les capacités de production et le degré de modernité de l'économie. Immédiatement, il est une demande, c'est-à-dire un mode de soutien de l'activité économique et une demande prioritaire. Certes, nous voulons tous utiliser, au bénéfice de la croissance, la demande des ménages, mais il nous faut aussi maîtriser raisonnablement son évolution dans la mesure où son développement peut alourdir les coûts ou ne pas avoir tout l'effet de relance recherché lorsque le pouvoir d'achat distribué se tourne substantiellement vers des produits importés. Nous souhaitons aussi mieux profiter de la demande extérieure, mais il convient de voir les limites de ce raisonnement. D'une part, chacun fait le même calcul, ce qui introduit un sérieux élément de scepticisme quant à l'appréciation de l'efficacité finale. D'autre part, il suppose une expansion de la demande internationale dont les éléments sont à peine réunis, du moins j'espère qu'ils le sont, dans les économies industrialisées et n'existent pas dans les économies en voie de développement. Ces remarques conduisent à une double conclusion. Il convient d'analyser comment aider au meilleur développement possible de la demande mondiale, notamment dans le tiers-monde, c'est-à-dire qu'il nous faut étudier ensemble à quelles conditions un financement satisfaisant des déficits de balance des paiements peut s'opérer et comment on peut favoriser à terme l'atténuation des contraintes qui pèsent sur ces pays, notamment en matière de vivres ou d'énergie, c'est-à-dire comment réaliser l'ajustement structurel fondamental dont on parle si souvent. Je souhaite que cette double réflexion soit plus complètement conduite à l'échelon européen. Il y a là aussi, par l'influence politique et économique que nous exerçons, une contribution potentielle de la communauté à la solution des problèmes que l'économie internationale et nous-mêmes connaissons. Il faut voir aussi que la demande des ménages n'étant plus un facteur suffisant de croissance et la demande extérieure ayant ses limites, l'action en faveur de l'investissement, je veux dire l'investissement productif ou l'investissement de flanquement du développement, devra être un facteur commun à toutes les politiques. Pour réussir cette action, nous retrouvons l'exigence d'une politique monétaire et d'une politique budgétaire poursuivie en conséquence, mais nous retrouvons aussi l'exigence d'un large consensus. Parce que l'investissement, c'est à la fois des machines et des hommes, un pari sur le marché, un pari sur les coûts, un pari sur le profit, une certaine façon de concevoir l'avenir comme la certitude d'un changement qu'il faut promouvoir, maîtriser, utiliser à son profit, comme on dit, mener à sa main. J'ai choisi, dans la conférence que j'achève, de présenter l'apport de l'Europe face à la crise sous un aspect très précis, celui de sa contribution à une croissance durable par l'établissement d'un cadre monétaire plus sûr, le développement du grand marché, l'engagement dans les techniques et les productions nouvelles, l'impulsion donnée à l'investissement. Cette vue dynamique de l'avenir, cette mobilisation autour de l'idée de développement moderne sont nos meilleures armes contre la plus grande des menaces, je veux dire le sentiment collectif d'une fatalité du déclin. J'ai donc ignoré plusieurs aspects de l'action commune. La solidarité à l'égard des régions les plus pauvres, le développement d'un fonds social facilitant à la fois les transitions dans les régions ou les secteurs les plus atteints et l'accès à l'emploi. Et bien que je sois convaincu de la nécessité d'une action communautaire ample, exemplaire, en leur faveur, je n'ai pas cité les jeunes qui ne doivent pas entrer dans la vie par la porte hideuse du chômage. Et c'est une des choses que nous avons proposées, que tout jeune quittant l'école se voit offrir dans les quelques années qui viennent, mais cela suppose la mise en place d'une infrastructure nationale, ou bien un emploi, si on peut le lui proposer, ou bien le type de formation, notamment dans l'entreprise, qui lui permettra d'être préparé à la vie telle qu'elle est aujourd'hui, notamment dans les perspectives futures de l'emploi. J'ai seulement voulu montrer que l'Europe avait encore une capacité de combat, que la communauté n'est pas seulement en 1982 la survivance d'un rêve politique un peu désuet, mais bien une nécessité, une chance de faire mieux et plus, le lieu géométrique de moyens d'action différenciés mais puissants, une possible zone d'espoir, une accélération du processus d'intégration économique et monétaire, un renforcement des structures institutionnelles, une Europe qui se rapprocherait de ses citoyens par son aptitude à les aider à sortir d'une phase difficile. Nous n'échapperons pas à un tel programme. Les hommes politiques européens doivent vouloir l'accomplir sur un temps bref, comme la démonstration d'une volonté politique et d'une capacité d'action intacte. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente, disait Apollinaire, la vie est lente depuis 1973 et l'espérance s'épuise. Comment faire revivre l'espérance et convaincu de la possibilité du succès, redonner au grand corps européen son sens du mouvement, son ambition dynamique. Voici la question à laquelle j'ai tenté de répondre devant vous.